Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Pour ceux qui l'ont vu pour la première fois, il faut prendre un peu le temps de décanter un peu, de se poser un peu. Moi, ce que j'ai envie de dire tout de suite, à propos d'images, c'est toujours intéressant de regarder comment un film commence. Et là, l'introduction que fait CPD Farcil est intéressante parce qu'elle filme des images prises d'avion, donc elle est dans l'avion forcément. Et donc son but, c'est d'aller au Caire pour ensuite aller à Gaza. Et c'est tout ce qu'elle peut faire. Alors, bien sûr, ce qu'on voit sur le sol, c'est l'Égypte. Hein. N'empêche que, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien. Et on se dit que là, ce que tu es en train de vous montrer dans l'image, c'est l'impossibilité. Il y a un pays qui est là, il est concret, mais on n'arrive pas à y aller. Elle filme cette impossibilité-là dès les premières images. Et elle enchaîne dans les images suivantes avec ce rideau qui passe devant la fenêtre et qui est un petit peu agité par le vent. Et là aussi, on a métaphoriquement l'image d'une frontière. On ne peut pas passer de l'autre côté. Et toute la question, ça va être de passer de l'autre côté. Alors ce rideau, c'est pas un hasard si c'est lui qui est filmé, pas un autre. Il a des trous. Et donc, toute l'astuce va consister à chercher les trous, les failles par lesquelles on va s'infiltrer pour essayer d'attraper ce que... Bon, on va dire concrètement les choses, hein, ce qu'Israël ne veut pas qu'on voit. Bon, Israël refuse totalement l'intervention, la présence sur le sol de journalistes du monde entier. Ça, c'est une interdiction absolue. Donc toutes les images qu'on peut avoir viennent de l'intérieur, des Gazaouis eux-mêmes qui prennent des risques insensés pour arriver à faire sortir des images à l'extérieur du pays. C'est ça qu'elle montre dès le début et qu'elle met en place dès le début. Bon, je peux continuer comme ça, mais c'était juste pour introduire, parce qu'il faut chauffer un petit peu les esprits à un moment. Mais je préfère aussi vous laisser un peu la parole. Juste, je m'arrêterai là pour dire qu'il y a une séquence qui me paraît aussi fondamentale, c'est celle avec le café et la référence à Mahmoud Darwish. Alors, je veux bien en parler, mais si quelqu'un parmi vous a envie d'en parler, je préfère que vous le fassiez. Voilà.
Juste... donner quelques mots, quelques informations, quelques impressions. Donc ce film, il ne rentre dans aucune catégorie. Bien évidemment, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas un documentaire non plus. En tout autre terme, ce n'est pas quelque chose où on part avec un projet. On va dire, bon, je vais faire un documentaire sur tel thème. C'est une rencontre. Et c'est une rencontre entre deux femmes qui sont aussi différentes que possible l'une de l'autre. Il y en a une qui vient, elles ont... Effectivement, bon, il y a la question de la frontière et du retour impossible, mais à part ça, il y en a une qui est devenue athée et qui le dit et qui l'a dit dans ses interviews fermement, et l'autre qui a une foi sans problème, bien vécue, une qui est manifestement angoissée, sérieuse, etc., etc., et l'autre qui... prend tout ce qui tombe comme étant, bon, voilà, une sorte de chose. Bon, ça, on a été bombardé déjà il y a 10 ans, on a été bombardé il y a 6 ans, et maintenant on l'est. Bon, c'est pire, mais comme moi je me disais à chaque fois que j'allais en Palestine, parce que c'était les Palestiniens qui me remontaient le moral, me dit, mais bon, oui, pour les Palestiniens, le soleil il se lève à l'est tous les matins. Et donc pour eux, vivre dans une situation d'oppression, etc., etc., c'est quelque chose qu'ils intériorisent complètement. Et elle le fait à un degré extrême, avec quand même, à la fin du film, c'est arrivé, c'est pratiquement à saturation, quoi, pour elle. Mais, bon, on voit ça, on se dit, mais comment c'est possible? Et bon, oui, c'est possible. Alors, d'autres choses que je voudrais dire, c'est que la mort est omniprésente dans ce film, mais vous ne la voyez pas. À part une photo dans laquelle on voit une main qui est bon, de quelqu'un qui est sous les gravats. Pour le reste, vous ne la voyez jamais. Vous voyez les photos qu'elle prend, c'est des photos de la vie quotidienne dans une situation de ville en ruine. Pas encore complètement en ruine, mais maintenant je pense qu'elle est encore plus. Et de gens qui, vaquent à leurs occupations, essayent de vaquer à leurs occupations autant que possible, etc. Ça, c'est quand même quelque chose de... Là aussi, le contraste est absolument extraordinaire. Alors, en parlant des photos, juste au passage, une information que vous n'avez peut-être pas. Donc, un livre qui vient de sortir il y a 10 jours, il est sorti le 19 septembre, qui s'appelle « Les yeux de Gaza ». Donc, c'est sorti aux éditions textuelles, et ce sont les photos de Fatema Sona, qui ont donc... Le livre a été fait avec le soutien d'Amnesty International et de Mediapart, et les revenus de ce livre sont destinés à Médecins Sans Frontières. Voilà. Bon, donc je ne vais pas en dire plus là-dessus. Si, quand même, peut-être une information sur les conditions dans lesquelles elle a été tuée. Donc, elle a été tuée par 2 bombes qui ont été lâchées par des drones au cours de la nuit, simultanément. À peu près, ils sont tombés à peu près à 4 mètres de distance, 4-5 mètres de distance l'une de l'autre sur l'immeuble. Et c'était des bombes qui étaient réglées pour exploser après pénétration. C'est-à-dire que ce sont des bombes qui sont tombées du 6e étage. Il y en a une qui a explosé au 2e étage, qui était là où était sa famille, là où elle dormait. L'autre qui a pénétré au 1er étage et qui a explosé au 1er étage. Bon, ça a fait évidemment les dégâts que vous savez. Toute cette chose, on le sait parce qu'il y a une organisation tout à fait remarquable qui est basée à Londres, qui s'appelle Forensic Architecture. Je pense que peut-être certaines personnes d'entre vous en ont entendu parler, qui font des enquêtes extrêmement sophistiquées sur beaucoup d'événements. D'événements, disons, liés à des situations de guerre ou des choses de ce genre, pas seulement des situations de guerre. Donc ils font ça depuis une douzaine d'années, je vais dire, et le directeur de Forensic Architecture est un Israélien qui a quitté Israël et qui a monté ce centre technique, en quelque sorte, de documentation. Si vous voulez voir la vidéo qu'ils ont réalisée sur... petite vidéo qu'ils ont réalisée sur la mort de Fatema Sona, vous pouvez simplement regarder la page Wikipédia de Fatema Sona. Vous avez les liens dedans. Et donc, à partir de là, vous pouvez tout de suite tomber sur le site de Forensic Architecture et sur leur documentation. Tout est en anglais. Bon, voilà. Donc c'était un petit peu les informations que je voulais donner. Je pense qu'on peut passer aux questions quand même.
Bonsoir. Je me demandais, là, pour rebondir sur le décès de Fatma, si vous pensez qu'elle a pu être ciblée par l'armée israélienne au fur et à mesure que ses agissements ont commencé à être connus.
Moi, je pense qu'on peut répondre de façon à peu près certaine. Elle a été tuée le lendemain de l'annonce de la sélection du film à Cannes. Le lendemain. D'accord ? Bon, il n'y a pas de... Ce n'est pas une coïncidence, bien évidemment. Elle était visée comme l'étaient tous les journalistes palestiniens. Il y en a plus de... Je pense que dans le film, ils disent, je pense, 210 ou 215. Oui.
À propos du nombre de journalistes, oui, effectivement, dans le film, on disait 211, mais l'histoire, elle avance, malheureusement. Le dernier chiffre que j'ai obtenu, enfin, que j'ai eu à ma connaissance, c'est le chiffre donné par Francesca Albanese, qui rapportera à l'ONU sur les territoires palestiniens occupés, et qui, il y a 10 jours, annonçait le chiffre de 252. Il y a 10 jours, ça a pu évoluer encore depuis.
ma question n'est pas en lien avec le film directement. Mettre des mots sur ce film, c'est extrêmement difficile. Mais Trump vient d'annoncer un plan. Qu'en pensez-vous ?
Alors, bon, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que bon, peut-être Dominique va donner sa réponse. Le plan de Trump est un plan de capitulation pure et simple pour les Palestiniens. Il n'est pas allé jusqu'aux intentions de Netanyahou. Les intentions de Netanyahou, c'est de chasser la population palestinienne de Gaza, qui correspond, ça on le sait pratiquement depuis le 8 octobre. C'est-à-dire qu'on a vu depuis 8 octobre que tout ce qui se mettait en place, c'était des préparatifs en vue de rendre la situation tellement invivable à Gaza qu'une opération de nettoyage ethnique pourrait être accomplie. Mais vous avez aussi, certainement, si vous avez suivi les choses, vous êtes rendu compte que, premièrement, l'Égypte refuse totalement tout accueil, en réalité ils en accueillent quelques-uns, mais bon, tout accueil massif de la population palestinienne, c'est-à-dire refuse de l'aller être complice d'Israël à ce point-là, mais surtout que la recherche de points de chute finaux pour les Palestiniens, donc ils sont quand même au nombre de 2 millions, 2 millions 4, auxquels il faudrait soustraire le nombre de morts qui s'élève probablement à environ 200 000 dans la réalité. La recherche de points de chute, alors on a parlé de la Somalie, du Somaliland, du Sud-Soudan, enfin de la Soudan du Sud, ou Sud-Soudan, je ne sais pas exactement, d'endroits comme ça qui sont des endroits qui n'ont absolument aucune possibilité d'accueil déjà pour commencer, et qui de toute façon, qui en plus de ça, bon, sont des lieux de non-droit, plus ou moins. Et donc, en fait, la réalité, c'est que Israël cherche à, par tout moyen de caser les Palestiniens qui font partie de leur plan de colonisation de peuplement. Colonisation de peuplement veut dire se débarrasser de la population déjà présente. Et au bout de 2 ans, je pense qu'on peut dire qu'il a encore échoué. S'il y avait eu quoi que ce soit d'un peu solide, en termes de possibilités d'accueil, vous pouvez être sûr que Netanyahou ou ses ministres l'auraient annoncé, auraient donné des précisions. Pour l'instant, ça n'est que... On sait que, voilà, il y a des recherches, mais ça ne marche pas. Donc, le plan qui a été proposé par Trump est un plan dans lequel les Palestiniens ne partiraient pas. L'idée de Netanyahou, c'est si il faut que les Palestiniens partent, et je suis sûr que Netanyahou souhaite une chose, c'est que Hamas refuse le plan. Donc c'est pour ça qu'il met des conditions supplémentaires à l'heure actuelle et qu'il va tout faire pour que ça ne puisse pas se réaliser. Bon, je ne suis pas devin, mais enfin ça je pense que on verra dans les jours prochains comment ça va se passer.
Je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que Israël, en tout cas à ma connaissance, c'est le seul pays au monde qui n'a jamais défini ses propres frontières. Ça veut dire que l'État d'Israël se donne le droit de dire « je veux ça, je vais jusque-là et ça m'appartient, c'est à moi ». C'est tout le combat qu'a mené Mahmoud Darwish. Au passage, l'histoire du café, là, apparemment, ça ne dit rien à personne. Alors on va en dire 2 mots. Darwish a écrit un texte. En 1982, il était à Beyrouth. Et cette année-là, il habitait un immeuble en bord de mer. Et cette année-là, c'est l'année où Israël a bombardé Beyrouth. Et donc lui, il a été réveillé. Et le scénario est toujours le même. Hein. L'armée israélienne attaque la nuit quand les gens sont chez eux, dorment. Et là, on sait que si on bombarde les immeubles, on va choper un maximum de monde. Il n'y a pas 36 000 solutions. Donc il est réveillé un beau jour à 3 h du matin. Il l'écrit comme ça, c'est 3 h du matin. Et puis, donc, il sait qu'il risque sa peau, il a compris la situation. Donc, il risque ce qu'a risqué Fatma Suna, c'est-à-dire un immeuble qui s'écroule, et puis lui, dessous. Et là, il raconte qu'il s'est dit qu'il ne voulait pas céder à la panique. Et il a dit, je vais me faire un café. Je vais me faire un café. Et donc, pendant, dans un bouquin qui s'appelle « Une mémoire pour l'oubli », il raconte là, cette histoire-là. Il raconte qu'il va se faire un café. Il raconte par le, dans le détail comment il le fait. Alors, à la mode palestinienne, je veux dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous connaissons, nous, dans les pays européens, croyez-moi. C'est assez complexe, la façon de faire. Et j'aimerais franchement connaître le résultat. Voilà, et puis ce café, c'est l'occasion pour lui, à la fois de se le faire, de dire « je vais garder mon calme ». Il emploie très clairement la phrase, à un moment il dit « je veux me transformer d'animal rampant en être de raison, je veux rester un être humain ». C'est exactement, on retrouve exactement le même type de comportement dans le film, dans ce que fait Fatma Suna. C'est extraordinaire de faire le parallèle entre les deux. Et puis, tout en posant son café, il raconte l'histoire de la Palestine, effectivement. Et voilà, en disant, ben, le café, c'est ce qu'il y a. D'ailleurs, elle le dit, c'est la seule chose qui est palestinienne ici, c'est le café. Et c'est pas un hasard si elle dit ça. Sepideh Farsi, qui est donc iranienne, c'est elle qui lui dit, mais là tu fais allusion à Darwish, et elle lui répond, ben oui. Darwish est le grand poète du Moyen-Orient qui est connu dans tout le Moyen-Orient. Et Sepideh Farsi, elle est iranienne, elle n'est pas palestinienne, mais elle le connaît très très bien. Elle a pigé tout de suite à quoi faisait allusion Fatma Suna avec cette allusion et cette séquence sur le café. Et voilà, à un moment il dit, Darwish, là, je le cite de mémoire, les envahisseurs peuvent tout. Ils peuvent s'approprier la mer, le ciel et la terre, mais ils ne peuvent pas m'arracher l'odeur du café. Parce que cette odeur du café, alors l'odeur, c'est l'impalpable. Tout à l'heure, je parlais de frontières à franchir et qui sont apparemment infranchissables, des frontières matérielles. Mais l'odeur, elle n'a pas de frontières. Elle passe les frontières. Et symboliquement, ça devient le fil conducteur qui sert d'unification au peuple palestinien, qui sait se fabriquer son café d'une certaine façon. Et c'est un signe à la fois de ralliement, un signe de mémoire, un signe de culture commune, partagée par tous, et qui fait que ces gens-là y tiennent. Je veux dire, il y a quelque chose là, à travers des choses très simples, à travers du sensible, il y a des choses extrêmement profondes, extrêmement philosophiques qui passent. Voilà ce que je veux dire là-dessus.
Mémo audio, une mémoire sonore.
Merci, ça n'a pas de rapport immédiat avec le film, mais est-ce qu'on peut parler de la flottille, du fait que l'Espagne et l'Italie ont fait ce qui, peut-être la Turquie aussi, ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire envoyer des bateaux pour la protéger. Et nous, en France, rien ne se passe apparemment.
Bon, je veux bien essayer de répondre. Vous avez tout à fait raison qu'il n'y a que deux pays qui ont envoyé des bateaux. Est-ce que c'est pour les protéger ? Ça, nous verrons. Ou est-ce que c'est simplement pour faire semblant de les protéger et rester à distance? Ça m'étonnerait que ces bateaux interviennent contre un arraisonnement fait par l'armée israélienne, car il faudra bien qu'ils arraisonnent les bateaux à un moment donné s'ils ont l'intention de les emmener dans le port d'Ashdod, comme ils ont fait pour les autres avant. Donc je crois que c'est une présence malheureusement qui va être plus symbolique qu'autre chose. Malgré tout, elle a le mérite d'exister, ce qui n'est pas le cas pour la marine française, ni pour la marine turque. Et j'irai un tout petit peu plus loin pour ce qui concerne les Turcs. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, quelle année c'était ? C'était en 2010, je crois, peut-être 2011. Il y a eu un certain nombre de bateaux turcs qui sont allés en direction de Gaza. L'un d'entre eux a été attaqué par les hélicoptères où il y a eu un débarquement israélien. Il y a eu 8 morts, si je ne me trompe pas. Donc ça s'appelait le Mavi Marmara. Et cette année, il n'y a pas un seul bateau qui est parti de Turquie. Il y en a quelques-uns qui sont partis de Grèce, il y en a qui sont partis d'Espagne, d'autres qui ont été rejoints venant d'Italie, etc., etc., mais zéro de Turquie. Ce qui veut dire que dans un pays dans lequel les choses sont quand même très contrôlées, disons qu'il n'y a pas une société civile tellement indépendante telle que la Turquie, le gouvernement turc, clairement, ne souhaitait pas s'associer à la flottille et au projet de la flottille. C'est du moins l'interprétation qu'on est obligé de donner. Voilà. Alors juste un autre point en ce qui concerne la flottille. À l'heure actuelle, ils se rapprochent de plus en plus de Gaza. Ils sont plus qu'à 2 jours à la vitesse où ils vont, de Gaza. Donc on peut être sûr que dans les 48 heures qui vont venir, peut-être demain, au plus tard après-demain, la flottille va être attaquée. C'est complètement évident. Donc par rapport à ça, nous ici sur Toulouse, mais ça sera comme ça dans beaucoup d'autres villes, la consigne est, ce jour-là, il y aura évidemment des manifestations et des rassemblements pour soutenir les gens, pour soutenir la flottille d'une manière générale et tous leurs participants. Et insister autant que c'est possible pour demander que le droit international soit appliqué et qu'ils bénéficient d'une protection. On sait qu'ils ne l'auront pas, hein, mais enfin on sait, on subodore qu'ils ne l'auront pas. On l'espère quand même et en tout cas on la demandera. Voilà. Donc attendez cela pour demain ou vendredi au plus tard. Peut-être même j'ai pas reçu de message en disant que c'était maintenant, mais en tout cas ça peut être dans très peu de temps.
Pourquoi les pays arabes ne soutiennent pas Gaza ?
Pourquoi, d'une manière générale, les pays arabes ne soutiennent pas la cause palestinienne ? Pas depuis quelques jours ou depuis quelques mois, mais depuis des dizaines d'années. Je pense que c'est ça la question qu'il faut poser. Ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est la continuation d'une politique de deux pays arabes successivement les uns après les autres, considérant que s'opposer à Israël, c'est pas bon, qu'il faut passer des deals avec Israël et en tout cas ne pas s'engager dans quelque chose qui leur coûterait. Alors, bien évidemment, là-dedans, il faut faire la différence entre les uns et les autres, d'un pays comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats, qui sont en fait totalement depuis 1945 ou 50 sous contrôle politique américain, il est évident qu'eux n'ont jamais eu de politique de soutien à la cause palestinienne. Il y a ceux qui ont eu ou dont une partie a eu une politique de soutien à la cause palestinienne, je pense au Liban en tout cas avec le Hezbollah. Je pense à l'Iran aussi, bon, vous voyez les dégâts que ça cause. Donc eux sont pas du tout à l'heure actuelle dans une position de pouvoir acquérir un front contre Israël pour les Palestiniens, parce que l'un va avec l'autre. Si vous êtes pour les Palestiniens, vous devez évidemment agir contre une armée hyper puissante qui possède la bombe atomique, qui possède des moyens technologiques extraordinaires, on en a tout le temps la preuve. Bon, donc vous prenez les situations des pays les uns après les autres et vous comprenez à la suite de ça que, en fait, ces pays-là ne veulent pas intervenir pour les Palestiniens parce qu'ils ne le peuvent pas. Il faut bien comprendre, ils ne le peuvent pas. Il n'y a aucun d'entre eux qui représente effectivement une puissance militaire ou autre qui puisse intervenir. Donc, voilà. Je pense que c'est dommage de dire ça comme ça, mais bon, effectivement, le pouvoir à la fois des États-Unis et d'Israël et leurs proxys des pays du Golfe fait que les autres ne peuvent pas faire grand-chose. Prenez un pays comme l'Algérie. L'Algérie déclare symboliquement, depuis toujours, qu'il soutient la cause palestinienne. C'est un pays où certainement vous pouvez aller là-bas avec un drapeau palestinien sans vous faire arrêter. Ça, ça ne fait aucun doute. Mais l'Algérie, quelles que soient les sympathies officielles qu'elle peut avoir pour les Palestiniens, n'est pas en mesure de bouger le petit doigt pour aller faire quelque chose, aller secourir les Gazaouis. Ce sont des questions dans lesquelles il ne faut pas nécessairement les accuser d'être comment dirais-je, des traîtres, etc., etc., etc. Mais c'est le reflet, malheureusement, d'un certain rapport de force qui fait que les Palestiniens sont totalement isolés. Ils le savent.
Par contre, on peut peut-être aussi nuancer un tout petit peu en disant que les États, c'est une chose, mais les peuples, ça n'est une autre. Et même si les États arabes, enfin du monde arabe en général, hein, parce que les Iraniens, si on leur dit qu'ils sont arabes, ils ne vont pas être d'accord. Mais si les gouvernements, donc, comme l'a expliqué Jean-Pierre, n'ont pas les moyens, donc ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils le savent, ils risquent trop gros. Les peuples, eux, par contre, sont conscients des choses et se soulèvent. Et moi, la seule issue que je vois quelque part, c'est que les peuples finissent par trouver une solution d'union d'une manière ou d'une autre. Et la pression internationale est en train quand même de marquer des points. Que Trump passe d'une première... décision, on va raser Gaza et puis on va faire une riviera à la place, jusqu'à dire aujourd'hui, bon, on va peut-être trouver une solution, etc., un peu de compromis, etc. Déjà, c'est un recul, il faut appeler un chat, il faut appeler les choses par leur nom. Donc, c'est la solidarité des peuples qui fera que les choses vont bouger d'une manière ou d'une autre. D'où l'importance, effectivement, d'aller dans les appels, dans les manifestations. Il faut montrer, effectivement, un désaccord profond, total, déterminé, pour que les droits du peuple palestinien soient enfin reconnus et surtout respectés. Et j'ai envie de rajouter une toute petite chose sur la question du droit. Gaza, évidemment, est en première ligne. Et elle dit un truc, Fatma Sona, qui m'a assez bouleversée quand elle dit « Mais quand il n'y aura plus de guerre à Gaza, mais il n'y aura plus de guerre nulle part dans le monde. » C'est dit de manière un peu rapide, mais quelque part, j'ai presque envie de dire qu'elle a un peu raison, quelque part. Parce qu'à Gaza, il se joue quelque chose de fondamental. Pour eux, d'abord, bien sûr, ils sont en première ligne, ils sont en train de se faire, faut appeler un chat exterminé. Mais c'est notre avenir à nous, une société démocratique, qui est clairement en jeu à Gaza. Faut pas se cacher les yeux. Parce que là, on voit des puissances, alors les USA évidemment, Israël, n'en parlons pas, qui très très ouvertement se moquent totalement de la notion de droit. Alors le droit tout court, le droit international, n'en parlons pas, qui est remis en cause sans arrêt. Francesca Albanese qui est menacée directement par Donald Trump, et etc., etc., etc. Voilà. Alors moi j'ai quand même aimé, pour nuancer un petit propos par rapport à l'Algérie, j'ai beaucoup apprécié les interventions du délégué algérien à l'ONU, où il a clairement rappelé à Israël le respect du droit fondamental, du droit international, en disant, mais écoutez, c'est pas compliqué, c'est le droit ou c'est la jungle. Alors on sait comment les choses sont maintenant bien carrées. Du côté d'Israël et des USA, c'est la jungle, et du côté des sociétés démocratiques dignes de ce nom, c'est le droit, et c'est le droit qui prime.
Je veux bien mettre une nuance sur l'Algérie. Bon... Non, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'effectivement, la question que vous posez, c'est une question que nous, Européens, avons tendance à poser. Ce sont les pays qui sont limitrophes d'Israël, donc ça devrait être à eux d'intervenir, puis ce sont des pays arabes, et donc les Palestiniens sont aussi arabes, donc il devrait y avoir une sorte de proximité de communauté, c'est un petit peu comme si des gens d'Asie disaient « Mais qu'est-ce que font les Européens ? ils parlent tous le même genre de langue, des langues indo-européennes, ils sont voisins depuis très longtemps. Comment ça se fait qu'ils se sont tapés sur la gueule, ou qu'ils se tapent sur la gueule, ou qu'il y a si peu de solidarité, etc. Ce sont des questions qui viennent un petit peu à l'esprit, mais en fait qui ne correspondent pas nécessairement vraiment à la réalité. Maintenant, je vais quand même venir à un point. Bon, je suis militant de la campagne BDS, boycott des investissements sanctions. Et à l'heure actuelle, nous sommes évidemment devant la situation où le S doit prendre de l'importance. S, ça veut dire sanction. Et la sanction, pour moi, c'est un processus dans lequel il nous reste, c'est ce que j'ai coutume de dire ces derniers jours, il nous reste quelques mois, maximum quelques années, pour faire ce que les Sud-Africains ont fait en 30 ans. Je vais vous donner un exemple. Il y a à l'heure actuelle une campagne qui est en train de commencer à se faire, à monter avec des pétitions pour demander que Israël soit privé de participation aux prochains Jeux Olympiques. Je ne sais plus si c'est les Jeux Olympiques d'hiver ou quoi, bon, peu importe. L'Eurovision, des choses de ce genre-là. Juste un rappel pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud... L'apartheid est tombé en 91, 92, ou peut-être un petit peu plus tard, 93, 94, d'accord. Auparavant, l'Afrique du Sud a été interdite de Jeux Olympiques pendant 7 Olympiades successives, 7 fois 4, 28 ans, d'accord. Autrement dit, l'isolement diplomatique, l'isolement dans les opinions, d'accord, de l'Afrique du Sud a commencé très tôt et s'est manifesté sur beaucoup d'aspects. Et il a fallu quand même attendre si j'ose dire, il a fallu se bagarrer pendant au moins presque 3 décennies pour que ça aboutisse en fin de compte au lâchage de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, par les pays qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les pays européens, même les États-Unis, etc. L'objectif pour nous, si on veut mettre fin au projet israélien qui ne se limite pas à Gaza, mais vous entendez parler à l'heure actuelle que les partis d'extrême droite et même Netanyahou, ne les dément pas du tout, poussent pour l'annexion de la Cisjordanie. Donc les choses vont aussi dans les mois et les années à venir, si ce n'est pas stoppé, bien évidemment, prendre encore beaucoup plus, une ampleur énorme. Donc on est devant une échéance qui va se compter en mois ou en quelques années seulement, et en mois ou en quelques années, on doit faire, nous, ce que les Sud-Africains, ce que la mobilisation internationale a fait en 30 ans ou 35 ans ou 40 ans pour l'Afrique du Sud. Moi, je dirais simplement, suivez tout ce qui concerne les pétitions qui circulent, les mobilisations qui circulent dans le cadre du S de la campagne BDS au niveau international. Et je vous invite, bien évidemment, à y participer, que vous soyez dans une association ou pas. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui se montent.
Oui, je souhaite... préciser quelque chose. Chaque fois qu'il y a un débat sur la question du silence tombal des pouvoirs arabes antidémocratiques, on ne fait pas le lien avec le peuple. Et j'ai beaucoup apprécié la nuance d'insister sur le fait que les peuples arabes sont très attachés à la cause palestinienne depuis des années. Et dernièrement, depuis 4 jours, toutes les villes marocaines sont dans la rue. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes au courant? Il y a des centaines d'arrestations partout, dans toutes les villes, de Tanger jusqu'à Marrakech, en passant par Gaza et Rabat. La jeunesse a baptisé Z, comme vous le savez, le symbole de Z, la vie, ne voulant la vie. Et par hasard, dans toutes les villes du Maroc, il y a une inséparabilité de cette revendication avec des drapeaux palestiniens dans toutes les villes marocaines. Et je vous signale que chaque vendredi depuis 2023, les villes marocaines sont, étaient dans la rue. Il y a des débats partout, il y a des colloques, des séminaires, des publications, d'autant plus que c'est la chose qui reste pour le peuple marocain, c'est de dénoncer la reconnaissance de l'État d'Israël par le Maroc. Donc ils profitent encore plus de cette spécificité au Maghreb pour dénoncer la collaboration avec l'État d'Israël. Donc j'ai voulu souligner cet aspect. Et pour finir, je souhaite revenir sur le film pour souligner cette complicité quand même entre deux femmes qui sont attachées à l'image. Deux femmes, une qui est militante contre un régime despotique des ayatollahs, et de l'autre côté, une femme qui est victime d'une spoliation de son territoire. Et j'ai beaucoup apprécié, de temps à autre, le peu de mots arabes que l'iranienne connaît. Il les glisse, Habibati, ma bien-aimée, Sabah al-Khair, etc. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'affect. Merci.
Même audio, une mémoire sonore.
Vous avez parlé du droit, qui est essentiel, mais il y a aussi une notion, c'est la sacralité de la vie.
C'est la quoi ?
La sacralité de la vie. D'accord. Sauf que, on a malheureusement entendu certaines expressions et on peut constater que nous avons affaire à des vies qui n'ont pas la même valeur. Et cette différenciation de valeur, est-ce qu'il faut la rattacher à cette notion du droit à l'existence pour Israël ? Est-ce qu'il y a un lien ? Voilà, merci.
Il y a une première chose quand même que j'aimerais souligner, c'est le fait que une façon de justifier la domination d'une population sur une autre, c'est de la dévaluer. Là, on a entendu, par exemple, Yoav Gallant déclarer le 9 octobre, nous traitons ces gens. Le mot palestinien, il ne le prononce jamais. Il n'existe pas, ce mot, dans sa tête. Mais ces gens-là, nous les traitons comme des animaux humains, comme des animaux. Nous les traitons comme tels. Voilà, c'est-à-dire que le palestinien n'a pas un statut d'être humain, c'est un animal. Et alors, on pourrait dire, oui, mais attendez, ça, c'est la colère, c'est récent, etc. Non, non, pas du tout, absolument pas. En regardant et en relisant, effectivement, moi, je lis beaucoup de littérature, et effectivement, je lis Darwish énormément. Et en regardant l'histoire, comment se raconte l'histoire, ben, je me suis aperçue que tout ce qui se dit aujourd'hui est dit, mais depuis 40 ans. C'est une très, très vieille histoire. Par exemple, dans le bouquin de Darwish que je citais tout à l'heure, là, une mémoire pour l'oubli, je peux même vous citer la page, page 83 du bouquin, comme ça, si vous voulez le lire, vous allez tomber direct là-dessus. Là, il parle, dans une autre anecdote, il parle de l'un de ses chefs. Il dit pas le nom de... Je ne sais pas qui c'est parce qu'il ne dit pas le nom, mais il dit « mon chef ». « Mon chef s'est fait filmer en train de jouer aux échecs ». Pour se moquer de Menachem Begin, qui, alors là, il cite les propos de Menachem Begin, qui était à l'époque donc le premier ministre d'Israël, lequel parlait des Palestiniens comme d'animaux à quatre pattes. Donc, ce que dit la droite, l'extrême droite israélienne aujourd'hui, alors parle la voix de Yoav Gallant en l'occurrence, mais c'est une très très vieille tradition dans la mentalité de la droite israélienne. Et donc, voilà, c'est un rapport de domination, et pour justifier sa domination, on détruit l'autre moralement d'abord, avant de le détruire, y compris physiquement. C'est juste une question d'étape. Voilà.
Juste pour aller dans le même sens, bon, il se trouve que j'ai un recueil de citations, de à peu près 750 citations, faites par, pour la plupart, faites par des dirigeants israéliens à différentes époques. Et donc on peut suivre tout ça. Les premiers colons, eux, ils ont remarqué qu'il y avait des Palestiniens, mais ils avaient la doctrine, c'est une terre sans peuple. Par conséquent, pour un peuple sans terre, n'est-ce pas ? Donc on a un droit à coloniser, puisque nous sommes un peuple, il lui manque une terre, donc on va venir coloniser ça. Eux, c'est juste comme ça, des gens de passage, c'est une terre sans peuple. Quand on arrive, on voit du sable et on voit pas les villes qu'il y a derrière. Bon. Mais effectivement, au cours des 40-50 dernières années, le nombre de déclarations qui sont... c'est considéré, pour les gens qui suivent les histoires de génocide, les préparations de génocide, ça s'est vu au Rwanda, ça s'est vu ailleurs, passent toujours par l'animalisation, en quelque sorte, de ceux que l'on vise ou que l'on va viser. Et les Palestiniens, alors vous pouvez aller regarder sur un site qui s'appelle Palsite, vous avez les 750 citations dessus, ils ont été traités de tout. Fourmis, cafards, crocodiles, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer pour dévaluer a été fait non pas par des journalistes ou des personnes de second rang, mais les personnes au plus haut niveau de l'État ou par le grand rabbin séfarade de triste mémoire qui s'appelait Ovadia Yosef, qui lui aussi en rajoutait toutes les semaines. Bon, en revanche, je crois que vous ne trouvez pas ça de la part des Palestiniens. Moi, je n'ai pas trouvé un seul cas où une personnalité palestinienne, quel que soit son bord politique, ait considéré les Israéliens comme étant des trucs que l'on peut écraser du talon. Voilà. Alors, je ne dis pas que les Palestiniens se sont mieux comportés le 7 octobre que les Israéliens dans l'autre sens, puisqu'ils ont causé effectivement beaucoup de victimes civiles, pas plus, pas moins. Mais en tout cas, il n'y a pas ce côté de mépris pré-génocidaire. Ça n'a jamais existé.
Oui, bonjour. Je veux d'abord une remarque justement à propos de la déshumanisation des Palestiniens, là. Parce que je constate qu'il y a eu deux stratégies, d'une part du gouvernement israélien par M. Netanyahou, de privilégier le Hamas comme seule force de résistance. Et ensuite, on va qualifier le Hamas de groupe terroriste et tous les Palestiniens qui soutiennent le seul groupe de résistance deviennent des complices du terroriste. Et donc, ils sont susceptibles d'être éliminés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'était ma première remarque. Et ma deuxième, concernait une remarque de madame à propos des États qui s'affirmaient comme démocratiques et qui défendaient le droit. Et je constate que on a un ministre qui veut remettre en cause l'État de droit. Le droit ne va pas de soi. Et du coup, ça me permet de rebondir sur une question précédente. Là, c'est que font les États arabes ? Et moi, ma question, c'est et que font les États démocratiques ?
Non, je veux dire, le droit... Alors d'abord, il faut savoir, quand on utilise le mot droit, il faut savoir de quoi on parle. Nous, généralement, les militants, nous, quand nous pensons le droit ou le droit international... Nous pensons en fait à une chose qui est assez restreinte dans la réalité, à savoir les conventions de Genève, les grands textes qui ont été adoptés par l'ONU et ensuite ratifiés par un certain nombre d'États, pas par tous d'ailleurs, et qui sont mis en application ou généralement pas mis en application, et puis ensuite la Cour pénale internationale. Donc nous, on dit le droit, il doit se référer à ces trucs ces éléments de droit qui sont fondamentaux parce qu'ils sont universels. Très bien. Si vous demandez à un professeur de droit qu'est-ce que c'est que le droit international, il vous dira « mais non, c'est pas du tout ça ». Le droit international, c'est ce qui régit les rapports entre États selon leur rapport de force. Ça va être le droit international, il va définir les frontières maritimes ou les frontières terrestres ou les relations, etc., etc. C'est-à-dire qu'il ne se référera jamais au droit international tel que nous le comprenons. Donc il faut bien comprendre ça. C'est même un professeur de droit palestinien qui nous a enseigné ça il y a quelques mois dans une conférence à Saint-Gaudens. Et là, effectivement, je suis tombé un peu sur le cul parce que c'est ça qu'il enseigne à ses étudiants aux États-Unis. Bon, maintenant, le droit international, il a été fait, disons, il s'est constitué dans un contexte où tout était mis en place pour qu'il ne puisse pas être réalisé. Ce sont des conventions qui ont été établies à partir de 1948. Puis ensuite, dans les décennies suivantes, il y en a eu plusieurs, qui ont été plusieurs textes qui ont été votés sur l'apartheid, sur toute une série de questions fondamentales. Mais ça a été fait dans des conditions où c'était absolument inapplicable. Pourquoi ? Parce que ça dépendait d'un organisme international qui s'appelle l'ONU. L'ONU a été créé avant 1948. Et il a été créé de telle façon que le droit ne puisse pas s'appliquer. Vous pouvez, à l'ONU, avoir une assemblée générale qui va voter une résolution par 180 voix contre 4. D'accord ? Mais elle n'a aucune valeur d'application. C'est juste une résolution, une recommandation. Ça n'a aucune conséquence pratique. Et puis, le seul organisme au niveau de l'ONU qui, lui, peut prendre des décisions contraignantes, c'est-à-dire prendre des décisions proprement parlées, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, vous savez qu'il y a un pays qui bloque tout en ce qui concerne Israël depuis le début, les États-Unis. Par conséquent, tout est mis en place pour que le droit international ne puisse pas s'appliquer. Et plutôt que de poser la question, il faut que le droit soit appliqué, il faudrait poser la question, qu'est-ce que c'est que ce foutu truc qui interdit effectivement l'application du droit, tel que nous le concevons, c'est-à-dire le droit universel. Bon, mais il y a, à mon avis, à peu près, la question n'est pas posée au niveau international de dire, bon, l'ONU, peut-être tel qu'il a été créé en 1945, a fait son temps, et il faudrait créer quelque chose de nouveau. L'ONU a été créée en 1945 après une guerre mondiale. Je me demande ce qu'il faudrait pour créer autre chose. Non, je fais une mauvaise blague. Voilà.
Oui, mais je reviens un peu en arrière. Sur les gouvernements des pays arabes, effectivement, la question de l'action ou de la non-action des nôtres se pose aussi. Mais quand même, je suis un peu dérangé d'entendre que parce qu'ils ne peuvent rien faire militairement, alors ils ne peuvent rien faire du tout. Il est possible de boycotter, de sanctionner, etc. Et non seulement ils n'ont pas soutenu, mais ils sont même allés jusqu'à collaborer avec Israël, bien souvent. C'est pas obligé, ça. Il y a quand même tout un tas d'autres manières, et évidemment que la France aussi pourrait faire beaucoup plus. Et voilà, simplement, la différence pour moi, enfin, j'en vois deux essentiellement, mais on pourra en parler longtemps, c'est que la France, comme l'Allemagne, etc., n'a pas le cul très propre vis-à-vis du génocide des Juifs en Europe à la même période dont on vient de parler. Et que d'autre part, la France n'est pas menacée directement par Israël, comme certains des voisins immédiats d'Israël peuvent l'être dans les délires de grand Israël qui viendrait grignoter un bout d'Égypte, de Jordanie ou de Syrie, quoi, et de Liban, etc. Voilà. Il me semble qu'il y a quand même de bonnes raisons d'essayer d'agir, même si évidemment je ne souhaite pas que ce soit par des moyens militaires qui viendraient rajouter de la guerre à la guerre.
Je me permets de penser qu'il y a quand même des petites failles, des petites choses qui me font dire que... Bon, là, c'est une réponse personnelle que je vais faire. Hein, qui me font dire qu'il y a peut-être des ripostes des pays arabes, en tant que pays, pas seulement en tant que peuple, hein, qui sont peut-être en train de se mettre en place, pour une raison très simple. Alors, bon, il a développé, Jean-Pierre, tout le côté rapport de force qui, effectivement, est bien une bonne réalité. Mais il y a une autre réalité. c'est que Israël, rappelez-vous tout à l'heure quand j'ai rappelé qu'Israël n'a jamais défini ses frontières. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Parce que Israël, en fait, veut faire ce qu'ils appellent le Eretz Israël, le grand Israël. Ça suppose l'annexion totale de la bande de Gaza, ça suppose l'annexion totale de la Cisjordanie, c'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs, au passage. Mais pas que, parce qu'ils ont aussi l'intention de grignoter une partie du Liban, de grignoter une partie de la Syrie, de grignoter y compris une partie de l'Égypte et pourquoi pas aussi une partie de la Jordanie. C'est ça le projet. Après, il faut bien avoir ça en tête en termes de durée de l'histoire et de futur de l'histoire. Il faut se rendre compte qu'en admettant l'hypothèse qu'Israël réussisse à annexer toute la Palestine dans son intégralité, vous croyez qu'ils vont s'arrêter là ? Pas du tout. Ils n'ont pas défini leurs frontières. Alors ils iront un peu plus loin, etc., pour accroître leur territoire. Ils ont, pour ce faire, ils ont l'aval des USA, qui ont leur intérêt propre, évidemment, qui n'a rien d'idéologique, croyez-en Donald Trump. Pour Donald Trump, il y a, dans la vie, c'est simple, il y a les perdants, les losers, les faibles, d'un côté, et de l'autre, il y a les forts et les gagnants. Point. Ça s'arrête là. Ils veulent quoi, en fait, les Américains ? Il faut s'apercevoir que la malheureuse Palestine, en termes de géopolitique, elle se situe à un endroit sensible du globe, où elle est au carrefour de trois continents. Et par conséquent, par ce carrefour-là, passent les voies commerciales. C'est ça que visent les USA, par l'intermédiaire de cette zone du Moyen-Orient. Et Israël, pour les Américains, c'est leur porte-avions sur place, leur bras armé sur place. Ce n'est que ça. C'est de l'intérêt économique. Mettez-vous dans la tête que les Américains, pour l'instant, sont autosuffisants en pétrole. Les économistes vous disent qu'ils en ont pour 7 ans d'autosuffisance. Ça veut dire qu'ils sont déjà en train d'anticiper sur comment on va s'y prendre pour trouver des sources énergétiques et les trouver à bon compte. C'est ça le projet. Alors maintenant, là où je vois en termes de riposte, entre guillemets, hein, je mets quand même des nuances, hein, des pays, en tant que pays arabes, c'est qu'ils ne sont pas fous. Ils ont bien pigé le truc. Et donc leur problème, c'est de se dire, mais attendez, à un moment, on va être directement menacé, là, très très physiquement. Hein. Donc il va bien falloir qu'on trouve des solutions. Alors moi, j'en sais pas plus, hein, je ne suis pas dans les petits papiers des Iraniens, etc., etc. Mais il me semble évident que ça, ils l'ont vu, hein, ils ne sont pas idiots. Hein.
Bon, je ne sais pas s'il y aura d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais juste faire une suggestion. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont partis. Bon, c'est juste une idée qui m'est passée par la tête. Mais c'est pas quelque chose d'officiel. Je me dis que dans une ville comme Toulouse, où la politique officielle pour les nominations de rue a été, au cours de ces dernières années, d'attribuer des noms de femmes à des rues, généralement des tout petits bouts de rue, hein, c'est 50 mètres, mais bon, quelquefois un peu plus. Enfin, je dis c'est 50 mètres parce que dans mon quartier, c'est comme ça. Je me dis que peut-être ça serait une idée de proposer qu'il y ait une rue en l'honneur de Fatma Hassona. Voilà. Pardon ? Oui, bon. Alors aussi peut-être signaler qu'à l'heure actuelle, je crois que c'est depuis une semaine, il circule un texte qui est un texte unitaire, qui est un texte de demande de suspension du jumelage entre Toulouse et Tel Aviv. Donc je pense qu'il y a à peu près 1 000 000 de signatures à l'heure actuelle, donc il y a encore de la place pour beaucoup de signatures. Voilà, je vous signale ça, vous trouverez ça facilement, je pense.
Même audio. Vous ne l'avez pas vu ? Vous pouvez l'entendre.